Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à Lorient, pêcher le hareng.
Il y a comme un air iodé dans ce podcast. Ça sent bon la sardine grillée et le maquereau pomme de terre à l'huile, comme un air de vacances déjà, du côté de Quiberon, en Bretagne.
Messine, pêcher la sardine. Allons à Lorient, pêcher le hareng.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Et aujourd'hui, on va rendre visite avec Isabelle Lesniak à la conserverie Belle-Iloise, une belle histoire qui, espérons-le, ne se terminera pas en queue de poisson.
Après une longue nuit de pêche au large de Quiberon, le poisson arrive sur le port de la Presqu'île. Les pêcheurs bretons livrent leurs sardines qui finiront dans ces petites boîtes bien connues du 100% local, véritable symbole du patrimoine français.
La touche française, un reportage de France 2 consacré il y a 2 ans à un fleuron de la conserve de poissons. La Belle-Iloise, entreprise plus que nonagénaire. La Belle-Iloise prospère à quelques encablures de l'île du même nom dans le Morbihan. Mais les défis restent nombreux pour cette PME dans un contexte d'inflation, mais aussi de surpêche et de réchauffement climatique. Isabelle Lesniak est journaliste aux Échos Week-end. Elle s'est rendue il y a quelques semaines au siège de la Belle-Iloise entre une fabrique de confiture et une microbrasserie locale. Elle s'était préparée à la visite odorante des ateliers de fabrication de ces boîtes de sardines, de maquereau ou de thon, réputées notamment pour leur design élégant. Presque des œuvres d'art qu'on a un peu de mal à ouvrir avant que l'estomac finisse par reprendre ses droits. Mais arrivée sur place, une surprise attendait Isabelle.
On était mi-février, un jeudi, théoriquement en pleine saison du maquereau, puisque la saison du maquereau se concentre entre la mi-janvier et la mi-mars. Donc, ça devait être un moment très important dans l'usine. Et quand je suis arrivée, les lignes de production étaient complètement arrêtées. L'usine était d'ailleurs plongée dans le noir. On a appuyé sur un interrupteur pour me montrer quand même les lignes de production. Et tout ça, c'était à cause d'un problème de matière première. En fait, 18 tonnes de maquereau qui aurait dû être livré comme toujours, enfin 2 fois par semaine, n'était pas arrivé. Et donc, la direction avait appelé en fait les salariés pour leur dire de rester chez eux parce qu'il n'y avait rien à travailler.
C'est ce qu'on appelle du chômage technique, hein, faute de poissons. Pourquoi est-ce qu'il n'avait plus de poissons?
Alors en fait, c'était dû à des tempêtes qui venaient d'avoir lieu quelques jours plus tôt en mer Celtique. Alors il faut savoir que même si à la Belle-Iloise, on travaille les produits théoriquement locaux, pour le maquereau, on va les chercher au large de l'Irlande et de l'Écosse. En fait, c'est dû à 2 choses. Pour avoir un bon maquereau pour la conserverie, il faut qu'il remplisse 2 critères, un de taille et un de taux de matière grasse, donc du coup de oméga 3. Et le maquereau breton, il est très bon pour notre barbecue l'été, mais il est trop sec pour la conserverie. Donc, on est obligé d'aller l'acheter là-bas. Il se trouve donc qu'il y avait eu des tempêtes. Les gros bateaux avaient rempli leur quota, donc ils ne pouvaient plus sortir. Et les petits bateaux, évidemment, ils étaient trop fragiles pour affronter les éléments. Donc, il n'y avait pas eu de pêche et donc d'approvisionnement.
Et quand on parle de pêche, la conserverie attendait la livraison de 18 tonnes de maquereau. Ça arrive souvent.
Oui, c'est un problème très récurrent. Donc, l'an dernier, pendant cette saison du maquereau, qui est finalement assez courte, puisque c'est 2 mois, il y avait eu 15 jours où il n'y avait pas eu de matière à travailler. La saison de la sardine, cette année, a été extrêmement bonne. Et pourtant, elle a été écourtée, puisque on se souvient de la tempête en Bretagne à la Toussaint, l'énorme tempête, et donc ça a écourté la saison. Pour le thon naturel, qui est en fait le 3e poisson qui est travaillé à la Belle-Iloise, il a carrément manqué en fait pendant 2 ans, entre 2008 et 2010, il n'y en avait pas. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de prévoir l'organisation en fonction. De manière générale, la conjoncture n'est pas bonne pour la pêche quiberonnaise, pour les ports donc de Quiberon et de Lorient. Les chiffres de 2023 montrent une baisse du chiffre d'affaires de ces deux ports de 6% en volume. Donc, il y a l'effet tempête et il y a eu aussi une grève des pêcheurs pendant une semaine.
Ouais, et les salariés sont un peu obligés de s'adapter là aussi à ces livraisons de poissons. Il y a une chose que j'ai lue dans votre enquête qui est intéressante, c'est que c'est à chaque fois une course contre la montre finalement quand le poisson arrive.
Oui, tout à fait. Alors, ça dépend du type de poisson. C'est absolument vrai pour la sardine puisque c'est un poisson extrêmement fragile. Avec l'anchois, c'est le poisson le plus fragile. Et donc, elle s'oxyde dès qu'elle est hors de l'eau. Donc, il faut vraiment la travailler quelques heures après l'avoir pêchée. Pour le maquereau, c'est moins vrai. Par exemple, la fois où j'y suis allée, s'il y avait eu un peu de poisson, on aurait pu le cuire et le travailler dans les 48 heures.
Vous avez rencontré la patronne de la Belle-Illoise, Caroline Hillier-Lebranchu. Comment vit-elle cette dépendance au climat?
Alors évidemment, c'est une source de stress pour elle, puisqu'elle doit toujours organiser et prévenir les salariés au dernier moment et ensuite leur faire rattraper des heures, parce qu'évidemment, leur contrat prévoit un certain nombre d'heures et quand il n'y a pas de matière première, ils restent chez eux, mais ensuite, ils doivent compenser. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ça s'ajoute aussi à ces problèmes de main-d'œuvre. En fait, c'est une industrie où c'est difficile de trouver des gens. Le problème du personnel est central. Alors cette année, c'est la première fois depuis 6 ans qu'on est au complet pour la saison du maquereau. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais la main-d'œuvre est très volatile en fonction des départs à la retraite, des saisonniers qui arrivent ou pas. C'est vrai qu'il faut aussi arriver à Quiberon. C'est une presqu'île. C'est très compliqué, notamment l'été.
Ceux qui y sont allés connaissent bien, effectivement, on a l'impression de se retrouver le périph' à la sortie de bureau. Hein.
C'est ça. Et donc, les gens n'habitent pas là parce que c'est trop cher. Donc, ils habitent souvent vers Auray. Donc, c'est presque 40 minutes, une heure de route. Avec le prix du carburant, avec la difficulté de s'organiser, c'est pas facile de trouver des gens.
Chaque détail compte. Elle a un œil sur tout. Par exemple, sur ces messieurs qui étaient et évissèrent à la main.
Il faut vraiment que l'opérateur aille chercher le petit boyau anal, parce que ce petit boyau-là, il est compliqué à aller chercher, et il laisse un très très mauvais goût dans la sardine.
Car bien sûr, la toute première qualité d'une sardine haut de gamme, c'est son goût.
Et Catherine, responsable de la fabrication dans cette vidéo de Food Story, c'est elle qui est chargée de faire finalement la même sardine que celle de grand-papa, une sardine pêchée à 6 heures par les pêcheurs de Quiberon, de la Turballe ou du Guilvinec et qui débarque parfois dès 9 heures à l'atelier. C'est ce que raconte Isabelle dans son reportage. On y contrôle la taille, le taux de matière grasse afin de l'orienter vers la recette appropriée avant de la saumurer, de l'étêter, de l'étriper, de la sécher, de la cuire, de la parer et de l'emboîter à la main, des gestes presque ancestraux pour une entreprise familiale dirigée par une femme. Caroline Hillier-Lebranchu a démarré sa carrière pourtant chez IBM au début des années 2000, après être passée par l'école de commerce de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui lui a donné, Isabelle, envie de reprendre le flambeau de l'entreprise familiale?
Alors, ce n'était pas du tout gagné. Quand elle était petite, elle se disait tout, mais ne pas travailler dans le bureau de papa. C'est vrai qu'elle a commencé donc, avec son école de commerce et avec son expérience chez IBM dans une grande entreprise qui lui a appris comment gérer un peu différemment et de façon plus moderne une entreprise. Ça l'a taraudée quand elle a eu 24-25 ans. En fait, elle a été voir son père qui imaginait sa succession et elle lui a dit « Si vous n'avez rien de prévu, ça m'intéresse de faire partie de l'aventure », comme elle a dit. Mais elle n'imaginait pas que c'était juste pour elle. Elle pensait plutôt à un groupement avec notamment sa sœur qui est 3 ans plus jeune qu'elle, mais qui est ingénieure agronome. Elle avait un cousin qui était aussi très impliqué dans l'entreprise et donc elle pensait plutôt qu'ils allaient s'organiser en groupe. En fait, les deux autres n'ont pas voulu y aller. Et elle s'est dit que finalement, c'était l'occasion de revenir à Quiberon, de reprendre l'entreprise familiale. Pendant 5 ans, elle a cohabité avec son père, donc qui lui a aussi payé une coach pour la préparer. Mais les jours où elle a pris les commandes en 2011, en fait, son père lui a laissé toute autonomie. Il habite encore à Quiberon, il est encore vivant. Il vient de temps en temps dans l'entreprise pour les pots de départ des plus anciens. Mais sinon, il la laisse seule maîtresse à bord, en fait.
Mon grand-père Georges, c'est Georges Hillier, donc c'est le fondateur de la conserverie de la Belle-Illoise. Il avait une vingtaine d'années quand il a créé l'entreprise en 1932, qui s'appelait à l'époque la conserverie Georgilienne.
Et elle est à la tête du groupe depuis presque 13 ans maintenant. Elle s'apprête d'ailleurs à fêter les 92 ans de l'entreprise.
Oui, c'est ça, avec une nouvelle étape. En fait, il y a eu trois grandes étapes dans la vie de l'entreprise et on en est à la troisième. Alors, le grand-père, Georges, en 1932, avait fondé l'entreprise. Il avait donc identifié le produit qu'il voulait travailler, la sardine, toute fraîche, pêchée dans le port et qu'on vendait surtout aux estivants de passage. Il avait aussi initié la vente directe, ça c'est très important, puisque donc il ne voulait pas de supermarché. Ensuite, deuxième génération, père et oncle. Donc, le père Georges fils et l'oncle Bernard qui ont développé le réseau de boutiques. Donc, bien au-delà du Grand Ouest, au départ, c'est évidemment Quiberon, Vannes. Mais maintenant, c'est 92 boutiques, y compris dans le sud de la France, à Paris. Et donc, on leur doit la professionnalisation, finalement, du retail. Et elle, Caroline Iliette Lebranchu, troisième génération, elle structure l'activité de l'entreprise et elle ajoute la dimension écologique. Vraiment, c'est une femme de son temps. Elle ne veut pas trop peser sur les ressources de la planète. On sent cette préoccupation vraiment RSE très forte que n'avaient pas, évidemment, les deux générations précédentes. C'est une entreprise qui est labellisée à mission et enseigne responsable. Et on sent que ça lui tient extrêmement à cœur de trouver un moyen de produire différemment pour respecter la planète.
Ouais, on va en parler de ça, mais avant, j'ai une petite question. Pourquoi la Belle-Illoise, alors qu'ils sont sur le continent, à Quiberon ?
Oui, alors c'est vrai que ça a été une de mes surprises aussi. Au début, je pensais que j'allais devoir prendre le bateau pour aller jusqu'à Belle-Île, mais pas du tout. En fait, ça vient d'une carte postale d'une jeune Belle-Illoise avec une coiffe traditionnelle qu'avait vue donc le grand-père. La carte postale lui avait plu et c'était lui qui avait dessiné les boîtes. Et donc, il a dessiné une boîte avec cette jeune Belle-Illoise. C'est d'ailleurs une des boîtes traditionnelles, mais qui est encore parmi les deux best-sellers de l'entreprise.
Isabelle, la sardine a fait la notoriété de la marque. Comment la Belle-Illoise s'adapte-t-elle à cette problématique du manque de poissons que vous avez aussi pu observer ? Alors, il n'y a pas que la météo, il y a aussi le fait qu'il y a moins de poissons dans l'eau.
Alors, la piste la plus intéressante, c'est sans doute de développer autre chose que du poisson, tout en gardant évidemment la clientèle et la réputation dans la sardine. Alors, actuellement, la sardine, elle représente un quart du chiffre d'affaires, donc un quart de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le macro, c'est 10%. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que depuis 2005, il y a des recettes qui n'ont plus beaucoup de poissons. Alors, le plus visible, c'est les cuillerables. Les cuillerables, c'est ces petites verrines très jolies qu'on met sur la table de l'apéro et chacun peut se servir en partageant. Donc, dans ces cuillerables, il n'y a que 30% de poissons et tout le reste, c'est des légumes. Donc, ça, c'est assez intéressant comme piste. Depuis 2020, il y a carrément des recettes qui n'ont plus du tout de poissons. Et donc, c'est des soupes aux artichauts, c'est des préparations à base d'algues. L'avantage, c'est que les algues, elles sont en quantité illimitée en Bretagne. Donc, on n'en viendra jamais à en manquer. Il y a aussi une diversification dans les plats réchauffés. Et ça, c'est très intéressant parce que le poisson, il peut être quelquefois surgelé dans ces plats à réchauffer. Et puis, il peut être préparé dans des espèces de thermomix géants qui, évidemment, permettent d'utiliser beaucoup moins de main-d'œuvre que la préparation des sardines qui est encore extrêmement manuelle.
Deux best-sellers, les sardines Saint-Georges à l'huile d'olive et les sardines La Belle-Illoise à l'huile d'arachide. L'entreprise, il faut le savoir, travaille 1000 tonnes de sardines chaque année. L'entreprise met donc aussi des légumes en boîte. Comment la PME conçoit-elle ces nouvelles recettes ?
Il y a un homme qui est à l'origine de la plupart des recettes. Il s'appelle François Seyé. On lui doit en gros une centaine de recettes sur les 200 produits qui sont dans le catalogue de la Belle-Illoise. Ça fait 22 ans qu'il est aux commandes de la R&D de l'entreprise. Alors, avant lui, c'était assez amateur. C'était d'ailleurs la maman de Caroline Iliette qui s'occupait, parce qu'elle était bonne cuisinière, de préparer des nouvelles recettes, d'essayer de nouvelles choses. Lui, il a quand même professionnalisé beaucoup la R&D. Il a un profil super intéressant parce qu'il a à la fois une expérience dans la grande gastronomie et dans la R&D, un centre de recherche à Quimper. Donc, c'était un peu la perle rare parce qu'il peut à la fois avoir le côté chercheur, géo-trouve-tout pour les nouvelles recettes et puis cette exigence de gastronomie. Il dit « je fais de la gastronomie en boîte ». Et en fait, ensuite, il laisse à deux collaboratrices la tâche de l'industrialisation. Ça ne l'intéresse pas trop. Et donc, quand il vous fait goûter ces nouvelles recettes, on le sent totalement impliqué. Par exemple, il y a un houmos aux algues du Finistère qui va sortir en avril. Et c'est vrai qu'il a mis beaucoup de cœur à le préparer. Bon, l'an prochain, il va partir en retraite et on ne sait pas trop bien qui va le remplacer.
Vous avez goûté ? Il vous a fait goûter des choses ?
Le houmos, c'est assez étonnant, puisque en plus, il ne sera pas au rayon frais par rapport à tous les houmos qu'on connaît. C'est ça qui est intéressant avec les produits belliloises. Ils se gardent des années. Et c'est vrai que c'est extrêmement bon, avec un petit goût citronné. Enfin, c'est tout à fait digne des concurrents des rayons frais.
Moins de poissons, plus de légumes, plus d'algues. On est en Bretagne. Est-ce que ça marche ? Quel est l'accueil du public ?
Alors, le public est plutôt favorable. En fait, la Belle-Illoise a un grand atout, c'est que elle possède ses magasins en propre. Donc, quand on rentre dans un magasin Belle-Illoise, on va être servi par un vendeur ou une vendeuse qui est passé 15 jours au siège de la Belle-Illoise, en partie avec ce François Seyé, et qui peut expliquer les recettes. Donc ça, c'est quand même très intéressant, puisque même si on rentre pour acheter une boîte de sardines, on peut en ressortir avec des produits auxquels on n'aurait pas pensé et qui auront été expliqués. Donc, globalement, ça marche assez bien. Il y a eu, par exemple, une mayonnaise aux algues qui est sortie en septembre, que j'ai testée au réveillon avec les fruits de mer. C'est absolument étonnant. François Seyé disait qu'il se demandait un peu l'accueil qu'on allait lui réserver. Et en fait, ça a très, très bien marché pendant les fêtes. Donc, il s'autorise à essayer des choses. Il y a évidemment quelques flops parfois. Alors, il y avait des produits avec des huîtres qui n'ont pas du tout marché. Ils considéraient que c'était trop clivant. Il a essayé aussi à un moment donné, pour rajeunir la cible, des soupes froides, genre gazpacho. Ça non plus, ça n'a pas pris. Donc, il peut se permettre quand même de tenter des choses et parfois, ça peut ne pas marcher.
Il a essayé le bio aussi ?
Oui, alors le bio, ça a été abandonné. Enfin, il y a quelques produits qui sont bio, comme le houmos aux algues dont je vous parlais, mais sinon, le tout bio, c'était trop compliqué. Finalement, la Belle-Illoise, c'est assez petit. Ils doivent passer des accords avec des producteurs bien en avance, et les contraintes étaient trop importantes pour une PME, finalement, de devoir planter bio et donc de définir les quantités une année auparavant. C'était trop de contraintes.
Alors, le groupe doit aussi penser à l'avenir, notamment avec le départ de son géo-trouve-tout, hein, de la gastronomie en boîte, comme vous l'appelez. Pour préparer l'avenir, le groupe mise d'ailleurs sur la croissance externe ?
Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'ils ont racheté, et c'était la première fois dans leur histoire, la Quiberonnaise. C'est un petit concurrent très local, assez pointu, d'une qualité sans doute encore supérieure à la Belle-Illoise, mais qui n'avait pas du tout le même mode de distribution, qui misait plutôt sur un registre local, là où la Belle-Illoise propose de vous emmener à Zanzibar avec ses sardines. Donc, la Quiberonnaise, c'était vraiment beaucoup plus breton. C'est un peu l'occasion qui a fait le larron, c'est-à-dire il y avait aussi un patron de troisième génération, Thierry Jourdan, qui n'avait pas de repreneur, et donc Caroline Hilliette de Branchu a trouvé que c'était l'occasion de racheter une entreprise locale. Il n'y a plus beaucoup de conserveries à Quiberon, donc finalement de regrouper les deux qui existaient encore. Mais globalement, à cette exception près, elle n'est pas du tout dans un registre de croissance tous azimuts. C'est vrai que le réseau de boutiques se développe énormément. Il y a 3 ouvertures par an. En revanche, pour les capacités de production, elle veut continuer à faire quelque chose de raisonné. On sent que ce n'est pas du tout l'hypercroissance qui la motive dans la vie.
La vente directe nous permet d'être au plus proche de nos clients. Avant ou après la dégustation, les clients nous posent des questions sur nos produits et j'aime expliquer que nous sommes à la fois fabricants et distributeurs.
Un dernier mot, en se baladant dans les allées des hypermarchés, on peut trouver des produits du concurrent Groix et Nature, bien mis en avant, hein, c'est le groupe Guyader. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu les produits de la belle Illoise, pourquoi ?
Alors c'était vraiment une volonté du grand-père Georges de résister à la grande distribution quand elle débarque en France. En fait, ça lui aurait poussé à changer les méthodes de production et il n'était pas du tout prêt. Et donc, il a eu cette phrase célèbre où il disait qu'il préférait aller lui vendre, prendre son panier et vendre ses sardines sur la plage plutôt que de le vendre à la grande distribution. C'est la grande différence avec la Quiberonnaise qui, elle, est présente au moins dans les enseignes de distribution bretonne.
Vous parliez aussi de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale. C'est aussi vraiment maintenant dans l'ADN de cette troisième génération ?
Oui, tout à fait. Caroline Hilliette Lebranchu, elle va avoir 50 ans. Elle est vraiment une patronne de sa génération avec des préoccupations écologiques très fortes. Et puis, bon, elle est bretonne, donc évidemment, c'est quelque chose... Elle a vécu, elle a grandi près de la nature, donc c'est quelque chose qui la motive. Donc, elle se donne des contraintes qui sont assez fortes, à la fois en termes de quantité pêchée, de mode de pêche, et puis de local. Donc, on essaye de privilégier... tant que faire se peut, les espèces locales. Il y a des partenariats avec des bateaux locaux qui sont les principaux fournisseurs. Et il y a depuis quelques temps un service RSE constitué, ce qui n'existait pas avant. Elle était très fière d'être labellisée enseigne responsable. Et c'est vrai qu'avec les considérations sur l'évolution de la pêche, elle s'inscrit totalement dans cette démarche intellectuelle de pêcher moins, mais pêcher mieux.
Et Isabelle, j'imagine que ça a un impact sur le prix des boîtes ?
Oui, quand on regarde en supermarché, une boîte peut être à 3 euros. Eux, ils se vendent plutôt le double.
Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Éco-Weekends, pour cette story dans les entrailles de la belle Illoise. La story, le podcast des Échos, c'est tous les jours à 17h sur leséchos.fr. Et pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.